RCF.
Voilà, c'est parti pour les 24e Jeux Olympiques d'hiver. Ils sont à Pékin cette fois-ci et si on s'en tient au discours chinois, ce seront même des JO verts. Mais le sujet d'aujourd'hui ne sera pas de savoir si on peut organiser des Jeux Olympiques d'hiver sans neige naturelle, ni quel sera le bilan écologique de ces défis sportifs. Non, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est ce qui va se passer avec les sportifs et les sportifs que sont nos âmes aussi. Ces 15 jours qui détermineront les athlètes selon la place qu'ils occuperont sur le podium, 15 jours qui marquent l'aboutissement de longs mois d'entraînement.
Vous avez un nouveau message ? La Bible a tant à nous dire.
Monseigneur Antoine Herouard, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes évêque auxiliaire de Lille et nous évoquons la quête de médailles et surtout la conquête de soi-même, ses efforts spirituels et la performance, quoi qu'on en dise, parce que ça fascine toujours autant.
Champion du monde en titre, Mathieu Fèvre a déjà son ticket olympique. Le skieur d'Isola 2000 vise un podium en restant prudent.
Les compteurs sont remis à zéro avant chaque course, avant chaque événement. Donc il faut réussir à s'adapter à chaque journée qui passe. On va arriver en Chine, il va falloir aussi poser les skis sur la neige là-bas pour voir comment ils réagissent.
Et si l'équipe de France a choisi Vars pour ses derniers ajustements, c'est que les conditions y sont proches de celles des Jeux.
On s'attend à ce qu'il fasse froid en Chine, donc les neiges soient plutôt agressives.
En bord de piste, curieux et passionnés viennent observer cet entraînement hors du commun.
Leur apporter aussi à ces athlètes peut-être un peu d'espoir, montrer que nous on les suit. Et notamment un élève qui était à Barcelone il y a quelques années, là, Cyprien, qui est là aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est un peu une fierté pour nous, entraîneurs. Et puis les jeunes qui sont là, ça leur permet de voir que c'est possible et que tout le monde peut y arriver. Quoi.
Cyprien, le voici, seul haut alpin de l'équipe. Sa place dans la délégation française n'est pas encore confirmée. Alors, chaque jour d'entraînement est pour lui un pas de plus vers Pékin.
J'ai claqué une bonne course à Adèle. Mais voilà, ça montre que j'ai les capacités et même sans être prêt, j'arrive à faire ça. Donc c'est encourageant pour la suite et j'ai vraiment envie de travailler dur pour être prêt et pouvoir jouer encore mieux.
L'entraînement continuera jusqu'au jeu, car pour ces champions, chaque détail compte. Sur la ligne d'arrivée, c'est au centième de seconde que peut se jouer la victoire.
Ben oui, parce que voilà, on cherche toujours à progresser, hein, et on se rend compte aussi que ces athlètes, bien, à travers les Jeux Olympiques, c'est quand même le fruit de tout un travail et que sur une course, sur une descente de ski, ils misent énormément alors que voilà, ils se sont entraînés pendant des mois et des années et que ben, tout peut être réussi comme tout peut être raté.
Comment est-ce que vous réagissez quand vous entendez ce chapelet de victoires, de compétitions, ces séries d'épreuves aussi? Il y a cette joie des sportifs, il y a ce bonheur sur leur visage, mais il y a aussi tous ces spectateurs qui sont heureux d'accompagner aussi leurs propres héros, leurs athlètes. Spontanément, quel parallèle vous faites entre le sport et l'exercice spirituel?
Ben, on voit bien que dans le sport, ce qui est important, c'est aussi un peu de se dépasser et d'arriver à faire des performances. Alors pour les athlètes, bon, c'est parfois des performances qui nous paraissent tout à fait extraordinaires. Mais pour les sportifs du dimanche ou chacun de nous qui essayons de faire un petit peu d'exercice, que ce soit en vélo ou sur des skis, eh bien, on peut se dire, bah, tiens, j'ai réussi mieux que d'habitude, ou j'ai été plus loin, ou j'ai pu faire plus. Et donc, il y a quelque chose qui nous met en avant et qui montre qu'on est capable de progrès et on est capable de se dépasser.
On a besoin de voir sa progression. C'est important dans un cheminement de noter que là, c'est un peu mieux, que pas à pas, on avance.
Ben oui, parce que je pense que... Alors, c'est vrai sur le sport, mais c'est vrai sur tout domaine de la vie. On a aussi toujours un peu à se projeter en avant, sinon on se replie sur soi-même et puis ben finalement voilà, c'est un peu triste.
Alors Monseigneur Herouard, aujourd'hui on évoque ensemble le dépassement de soi, qu'est-ce qu'il signifie pour nous, dans quelle mesure il est aussi présent dans la Bible, et puis à quel marathon, à quelle course le chrétien est-il appelé d'après vous?
Alors, bah, bien sûr, il y a toujours un peu, enfin, une comparaison, au moins dans les termes, hein, entre ce qui est de l'ordre de la progression sportive ou de l'effort à poursuivre, et puis eh bien, la manière dont, dans notre vie à la fois relationnelle, notre vie de foi, notre vie spirituelle, notre relation avec Dieu, bah, nous essayons aussi d'aller plus loin et de ne pas simplement nous contenter de... voilà, de ce qui nous a bercé à un certain moment de notre vie. Je pense que c'est une des grandes difficultés d'ailleurs aujourd'hui, c'est-à-dire que on voit que beaucoup de gens qui ont eu une éducation chrétienne, qui ont été au catéchisme, qui ont, bah, ils sont un peu restés à la foi de leur enfance. Alors c'est très bien ce qu'on explique à des enfants, parce qu'on le fait à la manière dont ils peuvent recevoir, comprendre les choses, mais il faut aussi grandir. Donc les enfants grandissent à tout point de vue, et bien je pense que dans la vie spirituelle aussi, on a besoin de grandir. Et on n'a jamais fini de grandir.
Vous voulez dire qu'ils sont restés dans le club des juniors et maintenant on leur demande de passer chez les professionnels?
Parfois, moi je suis parfois surpris de voir des gens qui ont très bien, entre guillemets, réussi dans leur vie. Je pense à leur vie professionnelle, à leur, des engagements dans la société, qui ont des hautes responsabilités. Et quand on parle un peu sur les questions qui ont trait à la foi, à la vie spirituelle, leurs références sont parfois un peu, voilà, un peu remontent à l'enfance, pour certains.
Qu'est-ce qui manque? La lecture de la Bible, ben, ce qui la manque, pratique avec un groupe
Oui, c'est-à-dire que la vie de foi, elle nécessite d'être pratiquée et d'être... échanger. Enfin, bien sûr, la foi, c'est toujours quelque chose de personnel pour chacun d'entre nous, qui est de l'ordre de la relation à Dieu. Et en même temps, c'est jamais quelque chose de solitaire. On a besoin les uns des autres et on progresse les uns par les autres. Et donc, si on est très, très distant, enfin, souvent, on entend des gens qui vous disent « Oui, mais ça, c'est mon affaire personnelle. Ben, je ne sais pas si je prie ou je me mets un petit peu comme ça, à ma manière, ou je vais dans une église tout seul dans le noir. » Bon, très bien. Pourquoi pas? Mais ça... quelque part, je pense que ça ne suffit pas forcément pour faire grandir. De même aussi, ben, dans la connaissance de la Bible, de l'Écriture, à travers ces écrits dont nous pouvons dire qu'ils sont la parole de Dieu. À travers cela, Dieu nous parle, hein. Dieu se fait connaître, Dieu se manifeste. Donc, on a toujours un peu à approfondir. Et je pense que la Bible, elle est d'une richesse infinie. Et aucun de nous ne peut dire, ben, moi, je connais. Bon, bien sûr, on connaît des épisodes de l'Évangile, on connaît, etc. Ouais. Mais chaque fois qu'on relit un texte, même des textes qu'on connaît très bien, eh bien, ils vont résonner d'une manière un peu particulière aussi par rapport à notre situation, par rapport à l'actualité, par rapport à ce que l'on vit, par rapport à ce qui occupe notre cœur. Nos joies, nos peines, nos projets, nos espérances.
On a à redécouvrir, en fait, ce qu'on a pu goûter plus jeune.
Ou oui, ce qu'on a pas seulement redécouvrir, mais découvrir autrement aussi.
Alors c'est ce qu'on va faire aussi aujourd'hui avec Saint Paul. Saint Paul qui lui aussi a eu à mener une course. Alors on va le voir justement. Est-ce que c'était aussi un peu sportif ou surtout spirituel? On va commencer avec une lettre qu'il a envoyée aux Corinthiens. Mais avant, deux mots sur Saint Paul, celui qui s'appelait Saul, ce citoyen romain, juif, connu pour avoir persécuté les disciples de Jésus avant ce jour de conversion. Alors, il ne fera pas partie des 12 apôtres, mais il atteste d'une foi vivifiante.
Saint Paul, c'est un passionné. Hein. C'est quelqu'un qui a vécu une expérience unique, qui a complètement bouleversé sa vie, qui est la rencontre de Jésus, celui qu'il persécutait. C'est comme ça que Jésus va lui dire sur le chemin de Damas. Saul, par fidélité à ce qu'il comprenait de sa foi juive, du fait qu'il était pharisien, qu'il voulait suivre strictement les commandements, avait un regard extrêmement négatif sur les disciples de Jésus. Il savait que Jésus était mort sur la croix et pour lui, voilà, c'était un groupe, une secte qui était dangereuse et qu'il fallait neutraliser. Et donc, il participe, hein, d'un mouvement de persécution. Et là, sur le chemin de Damas, eh bien, ce même Jésus va lui apparaître, va lui parler. Pourquoi me persécutes-tu? Et à partir de là, à travers aussi l'expérience un peu de la nuit, puisqu'il va être peut-être ébloui par la lumière du Christ, mais aussi aveuglé, il aura besoin d'être conduit. Et puis, quand il retrouvera la vue, il...
C'est un joli lapsus.
C'est un joli lapsus parce que ça dit aussi quelque chose, qu'il a découvert la vie d'une manière beaucoup plus réelle et beaucoup plus profonde et beaucoup plus belle. Et donc, il deviendra un apôtre. Hein. Il deviendra celui qui va annoncer l'évangile, celui qui va porter la bonne nouvelle. Et il le fait à partir de son expérience aussi personnelle et de sa très forte personnalité, sa grande culture.
En fait, oui, tout va devenir des atouts. Son passé, son histoire vont devenir des atouts dans sa vie de chrétien.
Même si au début, il n'est pas très bien vu des chrétiens, parce qu'ils se souviennent quand même que c'est celui qui leur a fait beaucoup de mal. Et donc, il va prendre aussi le temps. Il ne va pas se précipiter immédiatement. Il explique ça, on le voit à la fois dans la lettre aux Galates et puis dans les Actes des Apôtres, où il va prendre du recul. Et puis, au bout d'un certain temps, il va revenir à Jérusalem. Il va se présenter à Pierre et aux autres apôtres. Et voilà, il va se mettre au service et puis on va l'envoyer plutôt un petit peu plus loin pour aller voir les communautés juives de la diaspora en dehors de la Palestine et puis travailler à l'évangélisation des païens.
Paul, on dirait aujourd'hui que c'est quelqu'un qui vivait à fond, il était passionné, il avait beaucoup de vigueur. C'est ce qu'on découvre aussi à travers ses écrits. Alors c'est amusant parce qu'il fait souvent référence à la course. On revient au début de notre émission pour raconter sa vie de chrétien. Et vous avez choisi dans la Bible un passage, et notamment celui qui correspond à la première lettre de saint Paul aux Corinthiens. On est dans le chapitre 9, versets 24 à 27. Peut-être avant de le lire, ce serait bien de redire qui sont ces Corinthiens.
Alors donc c'est en Grèce, c'est une grande ville de l'Antiquité. C'est une ville extrêmement, on va dire, cosmopolite. C'est une ville aussi où il y a à la fois beaucoup de traditions religieuses, de mélanges de personnes, et peut-être aussi une vie, on va dire, un peu dissolue. C'est un grand port et ce n'est pas forcément là où les gens vivent le plus strictement les préceptes religieux. Et donc, c'est dans cet environnement-là, qui est un environnement qui peut correspondre à beaucoup de choses que l'on peut connaître aujourd'hui dans les grandes villes, que Paul va adresser le cœur de son message.
Alors, dans les extraits que vous avez choisi de commenter, ce sont tous des lettres, sauf les Actes des Apôtres. Pourquoi saint Paul écrivait des lettres ?
Parce que saint Paul, il a beaucoup voyagé, circulé. Et donc, il a, au fur et à mesure de ses voyages, il a annoncé l'évangile. Et quand il a pu, il a fondé des communautés chrétiennes. Et ces communautés chrétiennes, après, voilà, il continue son chemin. Il va dans d'autres villes, d'autres pays. Et il faut qu'il entretienne la relation avec ces communautés. Donc, quelquefois, le plus souvent, pour les encourager, pour les exhorter, et puis quelquefois pour les remettre aussi dans le droit chemin en disant « Attendez, là ça ne va pas du tout, vous avez oublié ce que je vous ai dit, ou vous êtes laissé influencer par des gens qui ne sont pas des vrais chrétiens, etc. » Et donc, justement, avec ce tempérament très, très fort qui est le sien, il va exprimer aux chrétiens de ces différentes villes, ce qui est à la fois l'essentiel de la foi, et puis comment vivre, comment mettre aussi en harmonie, en rapport, les comportements, les manières de vivre, les relations des uns avec les autres, dans la société et de cette époque, et puis la foi chrétienne, quel rapport il y a entre les deux.
Alors, on y va, saint Paul aux Corinthiens, chapitre 9, versets 24 à 27. Je vous laisse lire ce court extrait que vous avez choisi.
Vous savez bien que dans le stade, tous les coureurs participent à la course, mais un seul reçoit le prix. Alors vous, courez de manière à l'emporter. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour recevoir une couronne de laurier qui va se faner, et nous, pour une couronne qui ne se fane pas. Moi, si je cours, ce n'est pas sans fixer le but. Si je fais de la lutte, ce n'est pas en frappant dans le vide. Mais je traite durement mon corps, J'en fais mon esclave pour éviter qu'après avoir proclamé l'évangile à d'autres, je sois moi-même disqualifié.
Alors là, il y a clairement la couronne de laurier. Ça, c'est intéressant qu'on s'arrête sur cette phrase. Ils le font, donc les athlètes le font, s'imposent une discipline sévère pour recevoir une couronne de laurier qui va se faner et non pour une couronne qui ne se fane pas.
La couronne de laurier, c'était la récompense de celui qui avait gagné la course. Aujourd'hui, aux Jeux Olympiques, on reçoit une médaille, des médailles d'or, d'argent, de bronze. Alors, je ne crois pas que ça existait dans les premiers Jeux Olympiques et je pense qu'ils recevaient plutôt des couronnes de laurier. Donc c'était le symbole du fait qu'on avait gagné l'épreuve sportive. Hein, qu'on avait, voilà. Mais et donc lui, il dit, ben, les athlètes, ils se donnent beaucoup de mal, et ils se battent et ils essaient de vaincre pour gagner cette couronne de laurier. Ce n'est pas pour la couronne de laurier en tant que telle, mais pour ce qu'elle signifie, pour ce qu'elle matérialise. Et en même temps, il dit, ben, cette couronne de laurier, après tout, elle va se faner, elle va disparaître. Et nous, dit-il, en comparaison, dans la vie spirituelle, dans la vie de foi à la suite du Christ, eh bien, on va gagner une autre couronne et une couronne qui ne se fane pas. Et donc, il fait allusion très clairement au but même de la vie, de l'existence, en disant ben, nous sommes appelés à la vie éternelle, nous sommes appelés à partager la vie avec le Christ, nous sommes appelés à la résurrection. Et ceci est évidemment bien supérieur à tout ce que peut signifier le fait d'être vainqueur d'une épreuve sportive. Donc il ne dit pas que les sportifs, ça n'a pas d'importance, ou que ceux qui gagnent la couronne de laurier, bon, c'est pas bien. Non, pas du tout. Mais simplement, ce qu'il veut signifier, c'est que, alors qu'on voit que les athlètes se donnent tant de mal et tant d'efforts pour arriver à gagner cette couronne, donc à vaincre l'épreuve sportive, à gagner la course, eh bien, il y a aussi une course peut-être plus fondamentale encore, qui est celle de notre vie, qui est celle de la vie et de la mort, et qui, elle, ce que l'on peut gagner est d'un tout autre ordre, est beaucoup plus grand, beaucoup plus important.
Mais est-ce que ça retient le côté de la gratuité? Parce qu'on a le sentiment que finalement, il aura quand même une couronne et qu'il court pour aussi une couronne.
Alors, bien sûr, c'est-à-dire que la couronne, elle lui sera donnée. C'est pas lui qui va dire ah ben avec tout ce que j'ai fait j'ai le droit à la couronne. C'est pas ainsi. Donc la gratuité, elle est dans le don que Dieu fait à celui qui lui manifeste sa confiance. La gratuité, elle est dans le fait que nous savons bien aussi que nous sommes faibles, que nous sommes pécheurs. Et Paul le sait le premier, hein, il le dit à la fois par rapport à son histoire, il a quand même conscience aussi que tout n'est pas parfait. On voit dans le récit, par exemple, du meurtre d'Étienne que Saul, donc Paul, approuvait ce meurtre. Hein, on nous dit cela dans les Actes des Apôtres. Et donc, quelque part, il est complice hein, de meurtre. Bon, donc sa vie n'est pas toute rectiligne, elle est aussi marquée par cela. Et puis, il dit aussi qu'il connaît la faiblesse. Alors, on ne sait pas toujours très bien exactement de quoi il s'agit. Ou ici, il dit aussi qu'il a comme une écharde dans le talon et qu'il demande à Dieu de le lui enlever. Et la réponse, c'est « Ma grâce te suffit, c'est dans la faiblesse que tu peux devenir fort. » Voilà.
Qu'est-ce qu'il veut dire? Il parle beaucoup de la discipline sévère que s'imposent les athlètes à l'entraînement, mais il fait le parallèle avec sa propre vie à lui. Et il va même jusqu'à dire « je traite durement mon corps, j'en fais mon esclave ».
Alors bon, effectivement, donc on peut se dire c'est un peu exagéré, c'est un peu dur aussi. Il faut respecter son corps, faut pas en faire n'importe quoi. Mais il signifie à la fois l'importance de l'effort, les choses se font pas toutes seules. Hein, et que même dans la vie spirituelle, dans la relation avec Dieu, dans l'accomplissement de sa mission d'apôtre, d'annoncer l'évangile, d'en témoigner, tout ceci n'est pas facile. et qu'il l'a subi aussi dans son propre corps, parce qu'on sait aussi qu'il a rencontré beaucoup d'opposition, qu'il a été battu, qu'il a été lapidé, qu'il a été mis en prison.
Donc il y a une réelle dimension physique.
Il y a une dimension physique, son corps a parfois été maltraité. Et puis quand on regarde l'importance des voyages qu'il a accomplis, bon, alors je sais bien que à l'époque, on pouvait voyager à pied, parce que de toute façon, c'était un peu comme ça, il n'y a pas tellement d'autres moyens, mais c'est aussi un côté un peu, je ne vais pas dire exploit sportif, mais enfin ça traduit quelque chose qui fait que le corps lui-même est engagé dans la mission qui est la sienne.
En tout cas, il ne veut pas être disqualifié, il termine là-dessus, c'est aussi amusant d'avoir ce parallèle avec le monde du sport.
Alors voilà, il continue la comparaison pour dire que son souhait, c'est qu'il ne soit pas rejeté par Dieu, par le Christ, mais qu'au contraire, on puisse aussi reconnaître un peu ce qu'il a essayé de faire et que ce combat qu'il a mené tout au long de sa vie, il puisse le mener jusqu'au bout.
Alors jusqu'au bout, justement, on ne pouvait pas faire mieux comme transition, puisqu'on va s'arrêter sur une autre citation de saint Paul. Cette fois, celle-ci, elle est dans l'Acte des Apôtres.
Les Actes des Apôtres, oui.
Voilà, chapitre 20, verset 24. « Pour moi, la vie ne compte pas, pourvu que je tienne jusqu'au bout de ma course et que j'achève le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, rendre hommage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » La dimension de la persévérance, on sait que quand Paul écrit cette lettre, la prison et des nombreuses épreuves l'attendent. Alors en quoi cette course, elle est le nom s'il faut tant de persévérance ?
Mais la comparaison de la course, on voit bien que c'est une course de fond. Hein. Là on n'est pas dans le sprint. Hein. Donc c'est aussi dire, toute sa vie, il a cherché à encourager, à créer des communautés chrétiennes, à leur permettre de grandir dans la vérité, et à leur faire découvrir la personne du Christ. Et donc c'est ça, sa course. Et sa course, c'est d'être témoin. Et au fond, il veut être témoin jusqu'au bout. Alors il a certainement aussi, comme tout le monde, connu des moments où il était fatigué, où il était découragé, où ça n'allait pas comme il voulait, mais il a voulu rester fidèle à cette ligne et se dire que aller jusqu'au bout, ça veut dire porter jusqu'au témoignage suprême, c'est-à-dire celui du martyr. Et on sait que Paul est mort martyr à Rome, et donc il a été jusqu'à donner sa propre vie pour le Christ.
La persévérance et la discipline, comment est-ce qu'aujourd'hui c'est perçu dans l'Église ?
Alors, la persévérance, je pense que c'est très important. C'est-à-dire que, bien sûr, on peut, encore une fois, avoir des hauts et des bas, y compris dans la vie spirituelle. Et on voit bien que les plus grands saints, les plus grands mystiques, il leur arrive, et parfois pendant des périodes très longue, d'être un peu dans la nuit. Hein,
C'est parfois ce qui dessert un peu leur cause, parce que finalement les récits des saints parlent beaucoup de ces périodes de nuit et un peu moins des périodes fastes.
Oui, mais ça montre aussi que c'est pas toujours facile, et que c'est pas parce qu'on est un grand saint qu'on a vécu des expériences spirituelles un peu hors normes, ou que l'on a bénéficié de ce qui peut nous apparaître une grande proximité avec Dieu, que pour autant les choses sont faciles. Donc la question de la fidélité, la question de la persévérance, ça fait partie d'abord de la vie tout court, et peut-être est-ce que c'est aussi une des difficultés de notre époque, hein, où souvent on a un peu l'impression que quand quelque chose ne va pas ou on bute, on passe à autre chose.
Alors j'ose même pas parler de la discipline du coup.
La discipline c'est un peu...
Est-ce que c'est encore dans l'air du temps ?
C'est un peu autre chose, mais la discipline elle est là aussi pour nous dire est-ce que nous prenons les moyens pour arriver au but que nous recherchons ? Parce que c'est très bien de dire qu'on va être un grand champion, mais il n'y a qu'à interroger tous nos champions et tous nos athlètes. On voit bien que s'ils ne se donnent pas une discipline assez stricte en termes d'hygiène de vie, en termes d'entraînement, en termes d'effort, ça ne marche pas. Hein. Et on a un ensemble d'exemples comme ça de champions qui, à un moment, vont être au top niveau, vont récolter des médailles aux Jeux Olympiques, et puis après, dans une certaine euphorie qui est celle aussi de... ils sont un peu... Les regards sont tournés vers eux, il y a un côté un peu star, il y a un côté... On peut se laisser prendre à un certain jeu, et puis une vie qui apparaît plus facile, un peu dans la gloire. Bon, et puis
si c'est la chute.
C'est la chute. Oui. Mais c'est bon, c'est très classique. Hein, c'est et après, ben, si on veut revenir au premier plan, il faut retrouver cet effort-là et cette discipline-là. Donc, je pense que ça, c'est vrai pour le sport, mais c'est vrai là aussi pour bien d'autres aspects de la vie, y compris la vie spirituelle.
Alors, on va terminer avec son compagnon de route inséparable, Timothée. C'est le destinataire de deux lettres qui sont dans le Nouveau Testament, portant son nom. Timothée, c'est le fils d'un père grec et d'une mère juive. Ça, c'est important dans l'histoire de Paul aussi. Il s'est joint à Paul pendant l'un des derniers voyages missionnaires. Et Paul, on peut le dire, s'adresse à Timothée. C'est d'ailleurs ses mots comme à son
enfant bien-aimé.
Voilà, légitime en la foi, selon les traductions. Mais en tout cas, ils seront tous les deux ensemble. Le prisonnier du Christ, quand ils seront à Rome, ils seront dans la même prison. Et alors, la lettre sur laquelle on s'arrête, c'est la première lettre à Timothée, chapitre 4, verset 8. Alors, je vous laisse nous la lire.
Bon, donc un tout petit verset. En effet, l'exercice physique n'a qu'une utilité partielle, mais la religion concerne tout, car elle est promesse de vie présente et de vie future.
Alors, on donne pas tout aux Jeux Olympiques de Pékin, on en garde un peu pour Dieu.
Mais, ou en tout cas, bon, encore une fois, il ne s'agit pas de dire que les exploits des athlètes aux Jeux Olympiques n'ont pas de valeur.
Ça peut être un don pour Dieu aussi, non ? Comment est-ce qu'on peut
Bien sûr, mais je pense qu'il y a tout à fait des athlètes qui le vivent comme cela, hein, et qui sont croyants et pour qui ben, le fait d'accomplir des performances et de gagner des compétitions est aussi pour eux une manière aussi de rendre grâce à Dieu de des capacités qui sont les leurs et de reconnaître que bon au-delà de leur performance il y a aussi quelqu'un qui est plus important et qui est plus grand dans leur vie dans leur monde. Mais ce qu'on veut dire aussi c'est que et on le sait très bien la réussite sportive, comme la réussite dans une vie professionnelle, comme la réussite n'est pas toujours le synonyme exact du bonheur. Parce que c'est pas le tout de la vie. Hein, et parce qu'il y a aussi, on l'a souligné, des pièges qui peuvent être liés à cela. Et donc il faut garder la tête froide, mais il faut aussi, je pense que ce qui caractérise le chrétien, c'est que c'est quelqu'un qui reçoit sa vie de Dieu. Il la reçoit comme un don. Et ce don, bien sûr, il faut le faire fructifier. Il faut qu'il puisse donner le meilleur de lui-même. Mais il ne se satisfait pas seulement de tel ou tel aspect. Et il y a quelque chose qui est encore beaucoup plus important et qui a trait aux valeurs fondamentales de la vie humaine. Qui est autour de l'amour, autour de la joie, autour de l'espérance, autour de la et puis l'interrogation sur l'au-delà, sur après notre mort, qu'est-ce que nous devenons et vers qui est-ce que nous allons. Et donc ça, c'est pour Paul, il y a dans la foi au Christ un trésor qui surpasse toutes les épreuves et tous les trésors humains. Et donc, en se comparant parfois, comme il le fait, aux athlètes, il montre que ces gens qui sont souvent reconnus, adulés, admirés, eh bien, oui, on a raison de reconnaître leurs exploits. Et en même temps, il y a des exploits qui sont beaucoup plus importants, d'une certaine façon, et qui sont la manière de recevoir sa vie et de mettre sa confiance en Dieu et dans les autres.
Voilà, quelle course nous souhaitons mener, quel marathon nous avons envie de gagner. En tout cas, on suivra ces Jeux Olympiques de Pékin avec attention. Merci, Monseigneur Herouard. Je rappelle que vous êtes évêque auxiliaire de Lille. Merci beaucoup.
Bonsoir.